radiocultura.eus.
Marie Bourquin est originaire de Bordeaux, vit à l'Oussoa et se présente sous le terme de slasheuse, terme anglophone désignant une personne possédant plusieurs métiers. En effet, Marie est architecte, aventurière, couturière et comédienne et a décidé de réunir ses différentes casquettes dans une seule et même activité en créant l'atelier A2C2. Dans cette première partie, Marie nous présente les ateliers proposés avec ses outils d'architecte, de couturière et de comédienne.
On a tous une cuisine, une salle de bain, une pièce à vivre, mais on l'utilise de manière totalement différente. Et du coup, tout doit être, je pense, adapté à nos différents modes de vie. Toutes ces petites choses du quotidien qui font qu'on s'y sent bien, en fait, et que l'espace devient une continuité de notre fonctionnement. Bonjour, je m'appelle Marie Bourquin, je suis originaire de Bordeaux mais je vis à l'Oussoa. Je suis architecte, aventurière, comédienne et couturière, que je résume par le thème de slasheuse qui est d'avoir plusieurs identités professionnelles en parallèle. Slasheuse est un terme qui vient des pays anglo-saxons, qui était effectivement d'identifier, d'avoir une personne qui a plusieurs professions en parallèle. Et en fait, courant du premier confinement, j'étais allongée un petit peu déprimée sur mon canapé. Je regarde France 3 qui fait un reportage sur les slasheurs et les slasheuses. Et je me dis, mais en fait, ça y est, c'est moi. J'ai trouvé mon étiquette. Donc c'est effectivement un terme qui se répand de plus en plus en France et en Europe. Donc effectivement, pour identifier quelqu'un qui a plusieurs métiers en parallèle. À l'âge de 10 ans, je découvre deux passions qui sont effectivement le socle de ma boîte à outils d'aujourd'hui. La première, c'est l'architecture. Pendant les cours, je dessinais des plans d'architecture pour le plaisir vraiment de dessiner des espaces que j'avais imaginés, visités, rêvés, dans le but de construire des espaces où les gens se sentent bien. C'était devenu un objectif, j'en ai rempli des classeurs entiers, puis des maquettes, puis fait de la numérisation. Ça a été vraiment voilà, quelque chose qui a guidé mon orientation très jeune, quoi, vraiment à l'âge de 10 ans. Et en parallèle de ça, ma maman a dû sentir que j'avais besoin de m'exprimer, autre que sur le papier, et m'a inscrit à un stage de théâtre. Et je suis tombée dedans, comme dit Obélix dans la marmite quand j'étais petite, puisqu'à 10 ans, j'ai découvert le théâtre et c'est devenu un mode d'expression, quelque chose pour s'évader, de pouvoir interpréter n'importe quel personnage ou sur scène, tout est possible. On vous demande, quand vous êtes petit, de choisir un métier. À chaque rentrée scolaire, on vous fait bien comprendre, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, la grande pression, et d'avoir ce choix, ce dilemme entre l'architecture et le théâtre. Et naturellement, la société, la peur des parents a un peu guidé l'orientation vers l'architecture, qui est un métier voilà, que tout le monde rêve, qui est responsable, qui est tout ça, qui est normalement bien payé. Et donc, oui, je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais faire de l'architecture, je vais en faire mon métier, je vais poursuivre mes études. Et en parallèle de ça, je continuerai le théâtre. Donc au final, je n'ai jamais choisi. J'ai toujours fait en sorte de pouvoir faire les deux et que je rassemble aujourd'hui fièrement dans une et même boîte à outils. Les études d'architecture ont été pour moi longues. J'ai démarré par un BTS design d'espace, donc déjà c'était 3 ans. Je suis rentrée en deuxième année à l'école d'architecture sur dossier avec un entretien. Il y avait très peu de places ouvertes pour justement bifurquer et éviter cette première année. Et ensuite, avec le mémoire et compagnie, j'ai fait 6 ans en plus, donc 9 ans d'études que j'ai vécu un petit peu comme un sacrifice, de voir tout le monde vivre, prendre place dans sa vie, de commencer à travailler, avoir un peu de salaire, etc. Et moi, d'être toujours sur le quai en train de me dire « mais waouh, c'est long ces études, on y passe beaucoup de temps, dès qu'on a l'idée du projet ou le sujet du projet, on l'a dans la tête, donc on mange avec, on se brosse les dents avec, ils nous quittent plus ». Et les professeurs, effectivement, dès que le sujet était fini, nous en donnaient un autre. Donc c'était vraiment un flux tendu de conception psychologique, entre guillemets. Et je me suis souvent posé la question, effectivement, est-ce que je continue? Est-ce que c'est comme ça que je veux faire de l'architecture? La passion a toujours été là, donc j'ai serré les dents et puis j'ai dit « Allez, on y va, on verra, ce sera mieux après ». Ça a été toujours ma logique de dire « Ce sera mieux après ». Quand j'avais 6 ans, je rêvais d'en avoir 8. Quand j'en ai eu 8, je rêvais d'en avoir 10. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, je reviens sur cette méthode pour profiter enfin du moment présent et on est bien là, maintenant et ici. Mais oui, je reconnais que ce parcours universitaire n'a pas été évident, qu'il y avait des choses que j'avais idéalisées de la profession, surtout en termes de valeurs humaines. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu aujourd'hui à une pratique différente que je n'ai pas retrouvée ni dans mes études, ni dans le monde en tant que salarié. Aujourd'hui, je pratique l'architecture de manière un petit peu créative, ludique, sous forme d'atelier pluridisciplinaire, puisque je mêle les différentes disciplines, que peut être l'architecture, le voyage, la couture et le théâtre. Je souhaite vraiment donner des outils aux participants de mes ateliers pour qu'ils deviennent acteurs du bien-être dans leurs espaces de vie, chez eux avec la casquette architecte, sur eux avec la casquette couturière et en eux avec la casquette comédienne et aventurière. Et pour moi, tous ces ateliers, toutes ces disciplines ont le lien de l'espace, de la spatialité, et avant tout du bien-être, puisque quand on construit un bâtiment, pour moi, c'est pour que les gens y soient bien. On crée pour des usagers et des usages spécifiques. Et c'est ça pour moi, être véritablement architecte aujourd'hui, quoi. C'est mettre ça en priorité. Et après, on trouve évidemment des solutions vis-à-vis des contraintes techniques, administratives, logistiques, écologiques. Tout ça, ça sert le projet avant tout pour que l'usager et son usage soient compris et adaptés sur tout ça. Mon accompagnement sur les ateliers d'architecture adultes, je les appelle comme ça pour identifier et différencier par rapport aux enfants, je me place vraiment dans l'idée de vous accompagner en amont de votre projet. Dans un premier temps, généralement, j'accompagne principalement des personnes qui sont dans de l'autoconstruction, qui sont en train de réaménager un espace qui est déjà construit, de la rénovation, la réhabilitation, etc. Je ne fais plus de suite chantier, de grands projets, de signatures de plans, mais j'accompagne vraiment, je fais de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour que les futurs habitants puissent se poser les bonnes questions. J'interviens en amont sur des plans ou en cours de chantier pour dire, voilà, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions pour ne pas regretter, ne pas démolir ou pas subir son espace? C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais y faire? Qui sera dans la pièce? Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment ça va évoluer aussi? Comment on fait pour que ces espaces de vie puissent être adaptés tout le long de notre vie? On touche la sociologie, l'anthropologie, voilà, comment on vit, comment on fonctionne. Chaque individu fonctionne différemment. On a tous une cuisine, une salle de bain, une pièce à vivre, mais on l'utilise de manière totalement différente. Et du coup, tout doit être, je pense, adapté à nos différents modes de vie. Toutes ces petites choses du quotidien qui font qu'on s'y sent bien, en fait, et que l'espace devient une continuité de notre fonctionnement. Alors que quand ça l'est pas, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais si on l'identifie pas, on se dit, ouais, ça va pas, on n'est pas forcément bien, il y a des choses où ouais, on se sent pas bien, alors que si c'est limpide ou qu'on met l'accent, on visualise vraiment, on sent ce qui va pas, alors là ça devient comme le nez au milieu du visage, on a évidemment envie d'améliorer son espace tout simplement. Donc je suis là pour aussi vérifier qu'on s'y sente bien, prendre conscience de ce qui va pas, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, et comment on peut faire pour les améliorer. Sachant que pour l'amélioration, on n'est pas obligé de faire des gros travaux, il y a des choses très simples qui peuvent être utilisées, le réemploi aujourd'hui, la réutilisation de matériaux, de réagencements toutes simples de certains meubles, changer effectivement des couleurs, une dynamique en fait, une lumière dans la pièce qui fait qu'au final on s'y sent bien assez rapidement. On peut y intégrer tous les habitants, entre guillemets, de cet espace. Donc ça peut être des adolescents pour une famille qui viennent se joindre au projet avec les adultes. Et là, ça marche super bien puisque il n'y a pas de rapport de devoir, de subordination. C'est simplement, voilà, comment on fait pour que le vivre ensemble de cette maison puisse fonctionner avec tout le monde, avec les changements de vie et les modes d'emploi de tout le monde. Et ça, c'est super parce qu'on est tous autour de la table en train de faire des maquettes, sur le chantier ou dans la maison avec le maître. la créer au sol éventuellement pour marquer des espaces et se dire ah ouais, mais en fait ça y est, j'arrive à visualiser l'espace futur de comment ça va être, comment ce sera lumineux, qu'est-ce que je vais voir, quelle sera l'orientation, tout ça, de se projeter en fait. Je partage mon processus de projet que j'ai appris à l'école, qui est un processus de création, hein, de démarrer de la page blanche et puis d'arriver à quelque chose, pour que ces habitants puissent découvrir ce processus de projet, pour que plus tard dans leur vie, ils puissent refaire des projets et prennent conscience de comment on fait un projet, en toute autonomie. Je suis là pour donner des clés, tout simplement, accompagner. Après, les gens sont complètement autonomes. J'ai mis en pratique, pour moi-même, ces méthodes, dans le sens où, déjà petite, je déplaçais assez souvent mes meubles, ce qui faisait rire beaucoup ma maman. Ah, ça y est, t'as encore changé. Oui, parce qu'en fonction de la lumière, de la saison aussi, il y a un besoin différent. Il y a des périodes où on lit plus, d'autres où on travaille plus sur son bureau. Et donc forcément, il y a des choses qui changent dans notre usage propre. Et donc forcément, il faut que l'espace, pour moi, s'adapte à ses besoins. C'est pas l'inverse. Donc assez rapidement, ouais, de bouger les meubles, d'être dans cette écoute, de dire, bon, est-ce que je suis bien là? Est-ce que c'est la bonne configuration ou non? Et de faire en conséquence. Et puis petit à petit, effectivement, en grandissant, aujourd'hui, mon atelier, effectivement, il y a des périodes où je rechange, où je me dis, ah ben là, je peux pas le changer, parce que c'est vraiment le top en termes d'organisation, vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de ce que je fais. Mais il y a des petites choses où, voilà, je fais le grand ménage. Et de suite, je me sens mieux, ça ramène un moment de ressourcement, d'être plus aligné à ce qu'on fait. Et je pense vraiment que le fait de se sentir bien dans un espace, bien, porte ce qu'on fait, quoi. Porte qui on est, d'être plus léger. Je pense que l'être humain, dès le début, en fait, a voulu construire un refuge. Une double peau où se protéger, se sentir bien, être lui-même. On l'a vu avec le confinement, de suite on s'est réfugié chez nous et on a pu voir en fonction qu'on était bien ou pas super bien. Il y en a beaucoup qui se sont dit « Oh là là, au secours, je ne vis plus en ville, je vis à la campagne », de venir rechercher effectivement quelque chose qui soit adapté à leur fonctionnement. Et je pense qu'on a pu assez facilement mettre ça en avant, de dire « Waouh, effectivement, l'intérieur de notre maison, ce n'est pas simplement métro, boulot, dodo et puis... » Bastard, quoi. Donc je pense qu'on prend conscience à quel point l'intérieur de notre logement, mais même de notre espace de travail, de notre bureau, a de l'importance sur notre morale, nos envies, notre dynamique, quoi. Et du coup, quand on met l'accent dessus, on se dit mais c'est pas possible qu'on puisse rester dans un espace où on se sent pas bien, qui n'est pas adapté à nos besoins. La couture, c'est l'espace de son vêtement, c'est l'espace de vie le plus proche de nous. Donc si on prend soin de l'intérieur de notre logement, avant tout, c'est aussi bien de prendre soin de son sur-soi, de son espace sur-soi. Quand j'étais étudiante, effectivement, on a beaucoup travaillé, on fait beaucoup de maquettes aussi en carton, et j'avais besoin de m'exprimer aussi autrement, d'avoir des moments de pause. Et en fait, de concevoir un vêtement, pour moi, c'est exactement le même processus dans la tête de conception que de concevoir une maquette d'architecture en carton. Simplement, on change la matière. Ce n'est plus le carton, la colle, c'est le tissu et le fil et la machine à coudre. Donc ça a été une soupape de respiration, de se dire « voilà, je fais autre chose que du travail ». Assez rapidement, comme c'était, je dirais, facile en termes de conception mentale d'assembler un vêtement, j'en ai fait une activité loisir et puis au fur et à mesure, on est venu me chercher en disant « mais toi, tu sais coudre, tu pourrais me faire l'ourlet. Ah, puis j'ai la robe de ma petite fille pour son anniversaire, j'aimerais lui faire une robe de princesse, est-ce que je peux te la commander ?» Et petit à petit, avoir pas mal de demandes, surtout des personnes aussi qui souhaitaient faire mais qui n'osaient pas. Donc ça, de suite, ça m'a plu parce que donner, partager mon savoir, ça, c'est quelque chose que j'adore. De donner le déclic à l'autre, quel qu'il soit, ça c'est un plaisir fou, quoi. Du coup, ça a été intégré dans ma boîte à outils aujourd'hui et c'est un plaisir d'accompagner petit ou grand pour qu'ils puissent concevoir un vêtement, que ce soit un costume, un accessoire, et leur dire voilà, vous êtes capable de faire vous-même. Imaginez, concevoir, donc partir effectivement tout comme un projet d'architecture, de la 2D, d'une esquisse, d'un croquis, puis de définir un plan, donc un patron en couture, puis après de l'assembler avec le tissu de son choix pour que le vêtement soit adapté à la morphologie singulière de l'usager. fais du théâtre depuis 1998. Je me suis jamais arrêtée. J'ai succédé des cours amateurs, des troupes, des cours de perfectionnement semi-professionnels, et puis d'arriver enfin à se dire, mais en fait, est-ce que je peux pas m'autoriser, moi, à faire un spectacle où c'est moi qui pilote tout de A à Z, d'être l'architecte de ce spectacle, de l'écrire, de l'interpréter, de le mettre en scène. Et je me suis autorisée ça en janvier 2021, de me dire, voilà, j'ai besoin de parler de mon métier d'architecte, j'ai besoin d'en rire et aussi de partager mes peines, mes déceptions, parce qu'elles ont été grandes. Comment je fais? Voilà, comment je fais aussi pour répondre à cette fameuse question, comment je peux pratiquer mon métier d'architecte autrement? Et tout ça, j'en ai écrit un spectacle, un one-woman show, comme on dit dans le métier, qui tourne depuis mai 2021. Où je fais parler ma petite voix intérieure, ce personnage de Claire, celle qui ose tout, qui voilà, ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui prend sa place, chose que j'ai du mal à faire, moi, petite Marie, entre guillemets, même si je grandis tous les jours. Et elle ose faire ça et de partager au public nos questions, nos doutes. Le fait que le spectacle ait marché, que ça a fait vibrer le public, qui s'est posé les mêmes questions, tiens, moi, en fait, c'est vrai qu'elle pose la question de prendre sa place, comment pratiquer son métier autrement, ça vaut pour toutes les professions, m'a permis d'élaborer cette boîte à outils qui aujourd'hui est un petit peu atypique, riche, qui part un peu dans tous les sens, mais qui en même temps attire certaines personnes, m'a donné l'occasion d'offrir autre chose que ce spectacle, ces fameux ateliers théâtre d'oser être soi. Dans ma boîte à outils, tout ce que je propose aujourd'hui, on me l'a demandé. Ça s'est fait de rencontres et de demandes vraiment spécifiques. Et ces ateliers théâtre en font partie. Ou à la fin du spectacle, on me dit « mais il faut que tu donnes des cours à ma fille » ou « il faut que je prenne des cours avec toi. Je veux faire ce que tu dis et fais dans ton spectacle pour moi. » Et j'ai dit « bah banco quoi ». Je ne pouvais pas résister à ce challenge de refuser de l'aide à un moment où les gens se sentent bien et ils peuvent se défouler. Pour vraiment oser être soi pleinement sur scène en toute sécurité. Je pense que quand on est sur scène et qu'on pousse tous les curseurs de sa personnalité, d'aller dans la colère, dans la joie, tout ce qu'on n'oserait pas faire entre guillemets au quotidien, de le faire en sécurité sur scène nous pousse à imprimer entre guillemets dans notre cerveau que bah, en fait ça s'est bien passé, on n'est pas mort, le ridicule ne tue pas, que tout était possible, et donc petit à petit, bah, ça transpire, ça vient s'infuser comme un thé dans le quotidien, et on prend de l'assurance, on prend de la confiance, on prend de l'estime de soi, et donc forcément, le quotidien va beaucoup mieux parce qu'on se sent plus à l'aise, on se laisse moins marcher sur les pieds par rapport aux autres, et ce temps d'expérimentation dans l'atelier théâtre est là pour ça, est propice à ça. On a le droit de se lâcher, on a tous des facettes différentes dans notre personnalité, on peut être très drôle à faire le clown, et en même temps, on peut tout à fait être sérieux, on peut compter sur nous, etc. Et c'est ça que j'essaye de montrer aussi dans mon spectacle, c'est que voilà, on est tous riches d'une personnalité unique, autant en profiter de toutes ces facettes-là. Quand je le propose pour des collégiens, par exemple, dans les groupes scolaires, je présente mon spectacle en premier pour leur dire, voilà, vous allez voir quelque chose, je fais mon spectacle, on revient après en bord de scène pour échanger avec les collégiens, leur dire, voilà, j'ai été à votre place, vous l'avez vu en fait, vous l'avez expérimenté vous-même, maintenant c'est à votre tour. Et évidemment, on va y aller étape par étape, on y va doucement, pour qu'à la fin, ils puissent proposer un petit échange, un petit dialogue intérieur avec eux-mêmes, montrer aux autres du groupe. En prenant exemple aussi sur ce que j'ai fait, en disant, bah voilà, on parle le même langage, je suis à la même hauteur que toi, je suis là pour t'aider, j'ai simplement fait l'étape d'après, mais on est égaux. Et donc du coup, on crée forcément du dialogue, je pense, et de l'authenticité, parce que bah, j'ai rien caché en fait. Je leur ai montré tout mon parcours, et ils ont pu voir, bah voilà, que je trichais pas quoi. Je demandais pas un exercice que je n'avais pas fait, alors qu'au contraire, là, on est égaux, face à face. Le spectacle s'appelle « La vie, ce chantier », qui est une bonne métaphore, entre guillemets, sur effectivement le chantier de sa vie. C'est pas rien, ça prend du retard, il y a toujours des surprises, voilà, comme tout projet de vie.
Radio Cultura. www.radiocultura.eus.